Audible Studio présente Serment et Deuil. L'Assassin Royal, tome 10, de Robin Hobb. Traduit par Arnaud Mounier-Lompré. Lu par Sylvain Agaès. Chapitre 1. Manuscrit. Owan, pêcheur de son état, habitait l'île runique nommée Fédoïs. La maison des mères de son épouse, bâtie de bois et de pierre, se dressait bien au-dessus de la ligne de marée, car la mer peut monter très haut et descendre extrêmement bas en ces parages. Il y faisait bon vivre. On trouvait des palourdes sur la grève au nord et assez de pâture sous le glacier pour permettre à sa femme de posséder 3 chèvres en propre sur un vaste troupeau, bien qu'elle fût seulement une cadette. Elle avait donné le jour à 2 fils et une fille, et tous aidaient leur père à son labeur. Il ne manquait de rien, et cela aurait dû suffire aux pêcheurs. Mais il n'en était rien. Depuis Fédoïs, par temps clair, l'œil perçant peut distinguer Aslevial, avec les éclats bleutés de son glacier central qui scintille sous l'azur du ciel. Chacun sait que, lorsque vient la marée la plus basse de l'hiver, une barque peut se glisser sous la glace en suspens et parvenir jusqu'au cœur de l'île. Là, comme on le sait aussi, le dragon dort, son trésor autour de lui. Certains affirment qu'un homme audacieux peut s'y rendre et demander une faveur à Glafeu endormi, captif du glacier. Et d'autres rétorquent qu'il faut être à la fois cupide et fou pour tenter pareille aventure, car il se dit que Glafeu donnera aux visiteurs non seulement ce qu'il exige, mais aussi ce qu'il mérite, et qu'il ne s'agit pas toujours d'or ni de bonheur. Pour accéder à Glafeu par cette voie, il ne faut pas perdre un instant. Quand la marée descendante a découvert la base du glacier, on se précipite dans l'ouverture, dès que l'écart entre la mer et le plafond de glace permet le passage d'une embarcation. Une fois à l'intérieur de ce froid saphir, on doit compter les battements de son cœur, car si l'on s'attarde trop, la marée remontera, et l'on se fera broyer avec sa barque entre l'eau et la glace. Et cela n'est pas le pire qui puisse advenir à celui qui se risque en ce lieu. Bien rares sont ceux qui en sont revenus pour narrer leur histoire, et plus rares encore, ceux qui ne mentent pas. Owan savait tout cela, car sa mère le lui avait raconté, son épouse aussi, et la mère de son épouse. « Ne t'avise pas d'aller quémander auprès du dragon, » avait-elle dit, « car tu n'obtiendras pas mieux de Glafeu qu'un mendiant impudent qui frapperait à notre porte. » Même son plus jeune fils reconnaissait la sagesse de ses paroles, bien qu'il ne fût âgé que de 6 hivers. Mais son fils aîné avait 17 ans, et son cœur et ses reins brûlaient ardemment pour Gédréna, fille de cendre des mères Linsfal. C'était un riche parti qui ne s'abaisserait jamais à choisir le fils d'un pêcheur pour compagnon. Aussi, telle une mouche la nuit, le jeune homme bourdonnait-il sans cesse aux oreilles de son père, se lamentant sur son sort et susurrant que, s'ils avaient le courage d'affronter Glafeu, ils reviendraient tous deux plus riches. L'antre de Glafeu. Manuscrit outrilien. Le lendemain matin, les outriliens prirent le départ en profitant de la marée de l'aube. Je ne les enviais pas. La journée était froide et grise, et des bourrasques faisaient voler l'écume du sommet des vagues. Pourtant, ils ne paraissaient pas se soucier du mauvais temps qu'ils acceptaient comme un simple élément de leur vie quotidienne. J'appris par la suite qu'une procession descendit jusqu'au quai, puis qu'une cérémonie eut lieu avant qu'Eliania embarque sur le navire qui devait la ramener dans les ruines du dieu. Devoir s'inclina devant elle et lui baisa la main. Elle lui adressa une révérence, ainsi qu'à la reine. Ensuite, Sangrépé fit ses adieux solennels, imités par ses nobles. Péotr fut le dernier à prendre congé des loin voyants. Ce fut lui aussi qui escorta la Narcheska lorsqu'elle monta à bord du vaisseau. Enfin, tous se tinrent sur le pont, agitant la main tandis qu'ils quittaient le port. Je crois que les spectateurs furent un peu déçus qu'aucun coup de théâtre ne se produisit à la dernière seconde. L'atmosphère qui baignait la scène rappelait le calme qui succède à une tempête. Peut-être Eliania restait-elle sous le choc de sa courte nuit et des décisions cataclysmiques de la soirée précédente, et n'avait-elle plus l'énergie de dresser d'ultimes obstacles? Je le savais, la reine, Imbre, Onde Noire et Sangrépé s'étaient discrètement réunis après le banquet d'adieu. Organisée en hâte, la rencontre avait duré jusqu'aux premières heures du jour. On y avait certainement discuté de l'attitude et de l'entêtement du prince et de la Narcheska, mais, plus important, on avait intégré la quête du prince à un long déplacement dans les îles d'outre-mer dont elle ne constituait plus qu'une étape parmi d'autres. Imbre m'apprit ultérieurement qu'on avait moins parlé de l'élimination d'un dragon à l'existence incertaine que de l'emploi du temps du prince, afin de lui permettre non seulement de rencontrer le Hedgurd des runes du dieu, mais aussi de se rendre à la maison maternelle de la famille d'Eliania. Le Hedgurd était une alliance souple de chefs de tribu dont le fonctionnement rappelait davantage celui d'un comptoir de règlement que d'un gouvernement. Il en allait tout autrement de la maison maternelle d'Eliania. Imbre me rapporta que Péotre avait paru très mal à l'aise quand Sangrépé avait calmement déclaré qu'elle devait s'inscrire dans le voyage de devoir dans les îles d'outre-mer. On eût presque dit qu'il se serait opposé à cette visite si l'on avait eu la possibilité. Le prince et sa suite prendraient la mer le printemps suivant. Je songeais à part moi que cela laissait bien peu de temps à Imbre pour rassembler les renseignements nécessaires. Je ne fus témoin ni de ces négociations conclues à la hâte, ni des cérémonies d'adieu. Sire Doré, à la grande contrariété d'Imbre, refusa toute apparition en public en prétextant sa santé défaillante. Et j'avoue que je me réjouis de ne pas devoir l'escorter. J'avais les muscles endoloris et courbattus d'avoir passé toute la soirée précédente dans un espace confiné, l'œil rivé à un trou d'observation. L'idée de descendre à Bourg de Castelserre par un temps de chien, puis de refaire le chemin en sens inverse dans les mêmes conditions, ne me séduisait pas du tout. À la suite du départ des Outriliens, nombre de seigneurs et dames de la petite noblesse des six duchés commencèrent eux aussi à quitter la cour. Les festivités et les cérémonies des fiançailles du prince étaient achevées, et ils avaient quantité d'histoires et d'anecdotes à raconter à ceux qui les attendaient chez eux. Le château de Castelserre se vida comme une bouteille renversée. Les écuries et les dépendances regagnèrent de l'espace, et la vie reprit son paisible cours hivernal. Toutefois, et j'en fus le premier atterré, les marchands de Terrilleville demeurèrent. Cela signifiait que Sire Doré devait continuer à garder la chambre de crainte d'être connu, et que je risquais à toute heure de me trouver nez à nez avec Jack, lui rendant visite. Le concept de propriété privée restait lettre morte pour cette femme. Fille de pêcheur, elle avait reçu une éducation rustique et conservait les manières sans gêne de ses origines. À plusieurs reprises, je la croisais dans les couloirs de Castelserre, et chaque fois, elle me salua d'un « bonjour », jovial, accompagné d'un sourire radieux. En une occasion, alors que nos pas nous portaient dans la même direction, elle me donna un petit coup de coude et me dit de ne pas afficher constamment une mine aussi sombre. Je répondis par quelques commentaires qui se voulaient neutres, mais avant que j'aie le temps de m'éloigner, elle me saisit le bras et m'entraîna à l'écart. Elle jeta des coups d'œil à droite et à gauche, dans le couloir, afin de s'assurer qu'il était désert, puis déclara dans un murmure. « Je vais sûrement au-devant de gros ennuis, mais je ne supporte plus de vous voir ainsi tous les deux. Je refuse de croire que vous ignorez le secret de Sire Doré. Et si vous le connaissez ?» Elle se tut un instant, puis reprit d'un ton pressant toujours à mi-voix. « Ouvrez donc les yeux. Voyez ce qui s'offre à vous. N'attendez pas. Un amour comme celui qui pourrait être le vôtre ne... »
Je l'interrompis avant qu'elle pût en dire davantage. « Peut-être le secret de Sire Doré n'est-il pas ce que vous croyez ?» Ou bien peut-être avez-vous vécu trop longtemps chez les Jamaïliens, fis-je outragé. Elle éclata de rire devant mon air revêche.
Écoutez, insista-t-elle, vous pouvez me faire confiance, comme Sire Doré depuis des années. Mon amitié vous est acquise à tous les deux, et sachez que, comme vous, je puis garder les secrets d'un ami quand ils en valent la peine.
Elle détourna légèrement le visage et me considéra comme un oiseau observe un ver.
Mais certains secrets exigent qu'on les trahisse, et celui d'un amour inexprimé est de cela. Imbre est une sotte de ne pas déclarer ses sentiments pour vous. Ses cachotteries ne vous font aucun bien, ni à l'un, ni à l'autre. Et elle me regarda dans les yeux d'un air grave, sans desserrer sa prise sur mon bras.
J'ignore de quelle cachotterie vous parlez. répondis-je sèchement, tout en me demandant avec inquiétude combien de mes secrets le fou avait partagé avec elle. À cet instant, deux servantes apparurent au bout du couloir et se dirigèrent vers nous en bavardant gaiement. Jack lâcha mon poignet, poussa un profond soupir et secoua la tête dans une attitude de fin apitoiement. « Naturellement, dit-elle, tout comme vous refusez de voir ce qui se trouve sous votre nez. Ah, les hommes, s'il pleuvait de la soupe, vous essayeriez encore de la manger à la fourchette. » Elle m'asséna une claque dans le dos, puis nous nous séparâmes, à mon grand soulagement. Après cet épisode, l'envie me démangea de plus en plus de tirer les choses au clair avec le fou. Comme on ne peut s'empêcher de tâter du bout de la langue une dent douloureuse, je ressassais sans cesse ce que je voulais lui dire, frustré dans ce désir par son interdiction de pénétrer dans sa chambre, alors qu'il y accueillait apparemment Jack pour s'entretenir avec elle en privé. Il est vrai que je ne frappais jamais à sa porte en exigeant qu'il me laisse entrer. J'observais un silence morose en sa présence, dans l'espoir avide qu'il me demanderait ce qui me chagrinait. L'ennui, c'est qu'il ne posait jamais la question. Il paraissait avoir la tête ailleurs et ne pas remarquer mon attitude maussade et taciturne. Quoi de plus exaspérant que d'attendre en vain de quelqu'un qu'il fasse éclater une querelle imminente. Mon humeur s'assombrit encore. Que Jack vit dans le fou une femme nommée Ambre n'apaisait pas mon irritation, bien au contraire, la situation ne m'en semblait que plus bizarre encore. Sans succès, je tentais de me distraire en m'intéressant à d'autres mystères. Laurier avait disparu. Au jour raccourcissant de l'hiver, j'avais noté son absence. Mon enquête discrète aboutit à des rumeurs selon lesquelles elle se serait rendue en visite dans sa famille. Étant donné les circonstances, je restais dubitatif. Quand je m'enquis sans embâche de la grand-veneuse auprès de lui, Ambre me répondit que cela ne me regardait pas, mais que la reine avait décidé de l'envoyer en lieu sûr. Je voulus savoir où, et il me foudroya du regard.
« Ce que tu ignores, c'est autant de dangers en moins pour elle et pour toi. »
Dans ce cas, y a-t-il certains périls qu'il me faudrait connaître ? Il réfléchit un moment, puis il poussa un profond soupir.
« Je n'en sais rien. Elle a supplié la reine de lui accorder une audience privée, mais j'ignore ce qui s'y est dit, car Kétriken refuse de me le rapporter. » Elle a fait à la grand-veneuse la promesse ridicule que leur entretien resterait secret. Ensuite, Laurier s'est évaporé. La reine l'a-t-elle envoyée quelque part? A-t-elle demandé la permission de partir? S'est-elle simplement enfuie? Je n'en ai aucune idée. J'ai averti Kétriken qu'il n'était pas raisonnable de me tenir à l'écart, mais elle refuse de revenir sur sa parole.
Je songeais à ma dernière rencontre avec Laurier. Sans doute était-elle partie combattre les pies à sa façon. Laquelle? Je l'ignorais, mais je m'inquiétais pour elle. A-t-on des nouvelles de Lodvin et de ses partisans ?
Nous ne savons rien d'absolument sûr, mais trois rumeurs valent une certitude, comme dit le proverbe, et nombre de celles qui nous parviennent indiquent qu'il s'est remis de la blessure que tu lui as infligée et qu'il s'apprête à reprendre les pieds en main. La bonne nouvelle, si l'on peut la considérer ainsi, est que certains risquent de lui disputer le droit de les diriger. Espérons qu'il ne manquera pas de dissensions internes à régler.
Je partageais ardemment cet espoir, mais au fond de moi, je n'y croyais pas. Par ailleurs, rien ou presque ne venait illuminer ma vie. Le prince ne s'était pas présenté à la tour d'Ar le matin du départ de l'Anarchesca, mais je ne m'en étais pas étonné. Il s'était couché tard, et il avait dû se trouver sur les quais dès l'aube. Cependant, je l'attendis en vain lors de nos deux rendez-vous suivants. J'arrivais à l'heure dite, constatais son absence, travaillais seul sur la traduction d'un manuscrit, puis, ne voyant rien venir, m'en allais. Il ne m'envoya pas un mot d'excuse. Après avoir ruminé ma colère toute la matinée du troisième jour, je décidai de ne pas le contacter. Ce n'était pas à moi de faire le premier pas. Je tentais de me mettre à sa place. Comment aurais-je réagi si j'avais appris que Vérité avait forcé mon allégeance par un ordre d'art ? Je ne savais que trop bien mes sentiments envers Galen, mon maître d'art qui avait obscurci mon esprit pour me cacher à moi-même mon propre talent. Je comprenais la rancune et le royal mépris du prince pour moi. Mieux valait prendre patience jusqu'à ce qu'il s'essouffle. Puis, quand devoir serait prêt, je lui fournirais la seule explication possible, la vérité. Je n'avais pas voulu le contraindre à m'obéir, mais seulement à l'empêcher de chercher à me tuer. Avec un soupir, je me penchai à nouveau sur mon travail. Tard le même soir, je me trouvai dans la tour d'Ambre. J'y avais passé tout l'après-midi dans la tente de Lourdes. Encore une fois, il n'était pas venu. Comme je l'avais dit à Ambre, je n'avais guère de recours, et le vieil assassin non plus, si le simple d'esprit refusait de me rencontrer de son plein gré. Néanmoins, je n'avais pas perdu mon temps. En plus de plusieurs manuscrits parmi les plus anciens et les plus abscons que nous déchiffrions par petits bouts, Ambre m'avait remis deux vieux parchemins qui traitaient de Glafeu, le dragon des runes du dieu. Il ne rapportait que des légendes, mais il espérait me voir parvenir à distinguer les graines de vérité qui leur avaient donné naissance. Par ailleurs, il avait déjà dépêché des espions dans les îles d'outre-mer. L'un d'eux avait embarqué sur le navire même de la Narcheska sous le prétexte de rendre visite à sa famille outrilienne. Sa mission consistait à gagner Aslevial, ou du moins à rassembler le plus de renseignements possible sur cette région de l'archipel et à en rendre compte à Ambre. Le vieil homme craignait que, s'étant engagé à mener sa quête à bien, devoir ne soit tenu de l'accomplir. Et il était déterminé à ne pas laisser le prince se lancer dans l'aventure sans préparation ni bonne escorte.
« Il n'est pas impossible que je doive moi-même l'accompagner »,
m'avait-il confié la dernière fois que nous nous étions croisés dans sa tour. J'avais réussi à étouffer mon gémissement catastrophé. Il était beaucoup trop âgé pour se risquer dans un pareil voyage. Par un effort de volonté proprement miraculeux, j'étais parvenu à garder aussi cette réflexion pour moi-même, car je n'ignorais pas la réponse qu'il m'aurait faite à mes protestations. « Et qui, selon toi, devrais-je envoyer à ma place ?» Or, je ne tenais pas plus à visiter Aslevial qu'à voir Ambre s'y rendre, ni le prince devoir, d'ailleurs. Repoussant le manuscrit sur Glafeu, je me frottais les yeux. Le document ne manquait pas d'intérêt, mais je doutais d'y découvrir des éléments susceptibles d'aider le prince dans sa quête. D'après ce que je savais de nos dragons de pierre, et même ce que le fou m'avait appris de ceux de Terrilleville, je jugeais extrêmement peu probable qu'une créature semblable gît endormie dans la glace d'une des îles d'outre-mer. En toute vraisemblance, il s'agissait d'une invention dont le sommeil agité servait à expliquer les tremblements de terre et l'évèlement du glacier. En outre, j'avais mon comptant de dragon pour le moment. Plus j'étudiais le manuscrit, plus d'inquiétantes images du Terrilvillien voilé menaçaient mon sommeil. Pourtant, je regrettais que ce ne fussent pas là mes seuls soucis. Mon regard tomba sur un lourd saladier en terre cuite, retourné au bord de la table. Il dissimulait un cadavre de rat, enfin, la plus grande partie d'un cadavre de rat. Je l'avais pris au furet la nuit précédente. Je dormais à point fermé quand un hurlement de vif, empreint d'une atroce douleur, m'avait brutalement réveillé. Je n'y avais pas perçu l'extinction habituelle de l'existence d'un petit animal. Quand on possède le vif, on est obligé de s'endurcir contre ce ressac constant. D'ordinaire, les créatures de taille réduite disparaissent comme des bulles de savon qui éclatent. Seul un homme lié à la victime avait pu émettre un tel rugissement de détresse, de révolte et de souffrance à l'instant de sa mort. Ainsi tiré violemment du sommeil, j'avais abandonné tout espoir de me rendormir. J'avais l'impression que la blessure laissée par la perte d'œil de nuit s'était rouverte. Je m'étais levé, et peu désireux de réveiller le fou, j'étais monté à la tour. En chemin, j'avais croisé le furet qui traînait le rat mort. Je n'avais jamais vu de rat aussi grand, ni aussi vigoureux, à en juger par l'aspect luisant de son poil. Après une course suivie d'une petite échauffourée, le furet avait consenti à me l'abandonner. Il m'était impossible de prouver que sa proie avait partagé un lien de vif avec quelqu'un, mais mon instinct me le criait. Je l'avais gardé afin de le montrer à Ambre. Je savais qu'un espion s'était introduit dans les murs du château. Le brin de laurier attaché par un nœud coulant qu'avait trouvé la grand-veneuse en était la preuve. À présent, il fallait envisager que le rat et son compagnon de vif se fussent non seulement introduits dans la résidence royale, mais eussent vent de nos repères secrets. J'espérais que le vieil homme monterait à la tour ce soir. Je m'intéressais aux deux vieux manuscrits que nous efforcions de reconstituer. Ils présentaient plus de difficultés que les parchemins concernant Glafeu, mais aussi des résultats plus concluants. Pour Ambre, il faisait partie du même ouvrage, et il appuyait sa conviction sur l'âge apparent des supports et leur style calligraphique. J'estimais pour ma part qu'il s'agissait de deux œuvres différentes à cause du choix des termes et des illustrations. Les deux textes étaient passés, le parchemin craquelé, et certains mots, voire certaines phrases, illisibles. En outre, les lettres avaient un dessin archaïque qui me donnait la migraine. Chaque manuscrit était accompagné d'un vélin neuf sur lequel apparaissait notre traduction ligne à ligne, à Ambre et moi. En observant notre travail, je constatais que mon écriture y prédominait à présent. Je jetai un coup d'œil à la dernière contribution d'Ambre. Il s'agissait d'une phrase qui commençait ainsi. L'usage de l'écorce elfique. Fronçant les sourcils, je cherchais la ligne correspondante dans le texte original. L'illustration annexe s'était dégradée, mais elle ne représentait assurément pas de l'écorce elfique. Le terme qu'Ambre avait rendu ainsi disparaissait en partie sous une tache, mais à force de l'étudier, les yeux plissés, je dus convenir que la configuration des lettres indiquait qu'il avait sans doute raison. Cela ne tenait pas debout, sauf si le dessin n'était pas associé à cette partie du document, auquel cas notre traduction du passage tout entier était peut-être erronée. Je poussai un soupir. Le casier à vin pivota. Ambre apparut, suivi de Lourd qui apportait de quoi boire et manger sur un plateau.
« Bonsoir !» m'exclamai-je en poussant prudemment mon travail de côté.
« Bonsoir, Tom !» répondit Ambre.
« Bonsoir, maître !»
dit le simple d'esprit, et il ajouta
« Puis le sien !»
Ne m'appelle pas ainsi. « Bonsoir, Lourd. Je croyais que nous avions rendez-vous tous les deux ce matin. » Il posa le plateau sur la table et se gratta.
« Oublié !»
fit-il en haussant les épaules. Mais je vis ses petits yeux se plisser. Je lançai un regard résigné à Ambre. J'avais fait mon possible. L'œil revêche du vieil assassin parut affirmer le contraire. Je me creusai la cervelle pour trouver un moyen de me débarrasser de son serviteur afin de lui parler du rat. Lourd, la prochaine fois que tu apporteras du bois pour la cheminée, pourrais-tu en monter une deuxième fournée? Il fait très froid ici parfois le soir. De la main, j'indiquai le feu qui mourait. Je n'avais plus rien pour l'alimenter, et je devais le laisser s'éteindre.
Plus le chien froid.
Je captai nettement la pensée, mais il continua de me regarder, la bouche molle, comme s'il n'avait pas compris ce que je lui demandais.
Lourd. Deux brassées de bois ce soir, d'accord?
Ambre s'était adressée à lui d'une voix un peu plus forte qu'il n'était nécessaire, en détachant soigneusement ses mots. Ne se rendait-il donc pas compte qu'il agaçait son interlocuteur? Il était simple d'esprit, pas sourd, ni stupide à proprement parler. Lourd hocha lentement la tête.
« Deux brassées. »
« Tu peux aller les chercher tout de suite, » lui dit Ambre.
« Tout de suite, »
répéta Lourd. Comme il se détournait pour sortir, il me jeta un rapide regard du coin de l'œil.
« Pue le chien! Encore du travail !»
J'attendis qu'il eût disparu pour ouvrir mon cœur à mon vieux mentor, qui avait disposé le plateau devant les manuscrits. Il ne tente plus d'attaque d'art contre moi, mais il m'insulte constamment. Il sait que vous ne l'entendez pas. Je ne comprends pas pourquoi il me déteste à ce point. Je ne lui ai pourtant rien fait. Ambre haussa les épaules.
« Ma foi, vous devrez tous deux surmonter cet antagonisme pour travailler ensemble, et vous devrez vous y mettre rapidement. » Le prince a besoin d'un clandard pour l'accompagner dans sa quête, même s'il ne s'agit que d'un serviteur dont il pourra puiser l'énergie. Conquiert les bonnes grâces de Lourd Fitz, il nous est indispensable.
Comme je ne répondais pas, il soupira. Puis, il regarda le plateau.
« Tu veux du vin ?»
Je montrai ma tasse posée devant moi. « Non, merci. Je bois de la tisane ce soir. »«
Très bien. »
Il contourna la table pour voir sur quoi je travaillais.
« Ah, as-tu achevé les manuscrits sur Glafeux ?»
Je secouai la tête. « Pas encore, mais je ne crois pas que nous y trouverons d'informations utiles. » Il reste très vague quant à la description du dragon. On y parle surtout de tremblements de terre par lesquels il punit un individu de son inconduite, si bien que l'homme comprend qu'il a intérêt à suivre le chemin de la vertu.
« Je te conseille tout de même de les lire jusqu'au bout. Tu y découvriras peut-être un élément, un détail dissimulé qui pourrait nous servir. »
Ça m'étonnerait. Ambre, croyez-vous seulement à la réalité de ce dragon? Ne pourrait-il s'agir d'une ruse d'Eliania pour retarder son mariage, d'envoyer le prince au diable vert tuer une créature qui n'existe pas?
Je suis convaincu qu'un être dont la nature reste à identifier se trouve enfermé dans les glaces de l'île d'Aslevial. On relève dans certains manuscrits très anciens de nombreuses allusions au fait qu'il est visible. Quelques hivers aux chutes de neige particulièrement abondantes et une avalanche l'ont rendu indiscernable. Mais à une époque, les voyageurs qui traversaient la région faisaient volontiers un détour considérable pour examiner les profondeurs du glacier et spéculer sur ce qu'ils y voyaient.
Je m'adossai dans mon fauteuil. Eh bien, tant mieux. La tâche conviendra peut-être davantage à des ouvriers munis de pelles et de scie à glace qu'à un prince armé d'une épée. Un léger sourire volta sur ses lèvres.
« S'il s'agit d'excaver rapidement des masses de glace et de neige, je crois avoir inventé une technique plus efficace. Elle nécessite toutefois encore quelques raffinements. »
Ah, c'était donc vous sur la plage le mois dernier. J'avais entendu parler d'une nouvelle déflagration accompagnée d'une vive lumière, dont avaient été témoins plusieurs équipages de navires mouillés au large du port. Elle avait eu lieu en pleine nuit durant une tempête de neige, et nul ne parvenait à se l'expliquer. On n'avait vu aucun éclair dans le ciel, ce qui n'avait rien d'anormal par un temps pareil, mais personne ne pouvait nier avoir entendu l'explosion qui avait déplacé un volume considérable de pierres et de sable.
« Sur la plage ?»
répéta Humbre avec une fin de perplexité. « Peu importe, » fis-je, presque soulagé. Je ne tenais pas du tout à participer à ses expériences sur sa poudre explosive.
« Peu importe, en effet, » dit-il, « car nous devons nous entretenir de sujets autrement graves. Comment vont les leçons d'art du prince ?»
Je fis la grimace. Je n'avais pas informé Humbre que devoir ne s'y présentait plus. Je commençais par biaiser. Je lui ai recommandé de ne pas se servir de l'art tant que le terril vilien au visage écailleux resterait dans nos murs. Nous nous sommes donc contentés d'étudier les parchemins. Tout à coup, cacher la vérité à Humbre me parut dépourvu de sens, et lui mentir, conduire dans une impasse. Au vrai, il n'a tenu aucun de ses rendez-vous avec moi depuis le banquet d'adieu. Je pense qu'il m'en veut encore de lui avoir imposé un ordre d'art et de le lui avoir dissimulé. Humbre fronça les sourcils.
« Très bien. Je prendrai des mesures pour le remettre dans le droit chemin. Ses blessures d'amour-propre ne doivent pas l'empêcher de s'atteler à sa tâche. Il sera là pour sa leçon demain matin à l'aube. Je me débrouillerai pour qu'il puisse passer une heure chaque matin avec toi sans qu'on remarque son absence. À présent, parlons de l'our. Tu dois commencer son apprentissage, Fitz, ou du moins faire en sorte qu'il t'obéisse. Je te laisse le choix des moyens pour y parvenir, mais si j'ai un conseil à te donner... Les pots de vin réussissent mieux que les menaces ou les sanctions, en général. Et maintenant, passons à la question suivante. Comment proposes-tu que nous nous y prenions pour dénicher d'autres candidats à l'art ?
Je me rassis et croisai les bras sur ma poitrine. Puis je demandai en m'efforçant de contenir ma colère. Vous avez donc un maître d'art pour les former, si nous en trouvons ? Il plissa le front d'un air perplexe.
Eh bien, tu es là, non ?
Je secouai la tête. Non, je donne des cours au prince parce qu'il m'en a prié, et je dois essayer d'enseigner ce que je sais à l'our parce que vous m'y forcez, mais je ne suis pas maître d'art. Même si je possédais le savoir nécessaire, ce serait impossible. Ce que vous me demandez m'engagerait pour toute la vie. Je devrais un jour ou l'autre prendre un apprenti afin de le préparer à occuper la fonction de maître d'art après ma mort. Je ne vois pas comment me charger d'un groupe d'élèves et leur enseigner la magie des loin-voyants sans leur révéler à tous ma véritable identité. Non, je refuse. Humbre resta sans répondre, la bouche entr'ouverte, interloquée par ma fureur contenue. J'eus l'impression d'y puiser une énergie nouvelle et poursuivis. Par ailleurs, je préfère que vous me laissiez arranger moi-même ma brouille avec le prince. Ce sera mieux ainsi. Il s'agit d'une affaire personnelle qui ne regarde que lui et moi. En ce qui concerne l'our, quand et où pourrais-je commencer son enseignement ? Jamais. Et nulle part, fis-je sèchement. Il ne m'aime pas. Il est désagréable, mal élevé, et il pue. En outre, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, il est simple d'esprit. Il est un peu risqué de lui confier la magie des loin-voyants. Mais, même ces considérations hormises, il repousse tous mes efforts pour lui inculquer ce que je sais. Comme pour me convaincre moi-même, je songeais que c'était vrai.
Il avait toujours promptement mis fin à mes tièdes tentatives pour engager la conversation en obscurcissant mon esprit d'un nuage d'insultes artisées. De plus, il est puissant. Si j'insiste trop, son aversion pour moi risque de se transformer en violence. Franchement, il me fait peur. Si j'avais espéré provoquer la colère d'Imbre, je fus déçu. Il s'assit lentement en face de moi, but une gorgée de vin, puis me regarda un long moment en silence, et enfin secoua la tête.
« Je n'accepte pas cette réponse, Fitz, » dit-il à mi-voix. « Je sais, tu doutes de parvenir à former le prince et à lui fournir un clan dans le temps imparti. Mais comme nous n'avons pas le choix, tu trouveras un moyen. J'en suis certain. »
« C'est vous qui êtes convaincu qu'il a besoin de disposer d'un clan avant d'entreprendre sa quête. Pour ma part, je ne suis même pas sûr quelle est la moindre réalité, et encore moins qu'un clan d'art lui soit plus utile qu'un contingent de soldats armés de pelles et de pioches.
Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il faudra un clan d'art au prince avant qu'il se lance à l'aventure. »
Il se radossa et croisa les bras.
« Mais j'ai une idée pour repérer des candidats. »
Je le regardais fixement, mais, sans prêter attention à mon refus catégorique de devenir maître d'art, il aviva encore ma fureur en déclarant
« Je pourrais m'adresser à Lourd. Il a repéré Horty sans difficulté. S'il se mettait sérieusement au travail, avec une récompense chaque fois qu'il réussirait, il en trouverait peut-être d'autres. »
« Je ne veux rien avoir à faire avec Lourd, » murmurai-je.
« C'est bien dommage, » répondit Imbre sur le même ton. « Car cette question n'est malheureusement plus matière à discussion entre nous deux. Je vais être clair. C'est ta reine qui nous l'ordonne. Elle et moi, nous sommes vus plusieurs heures ce matin pour parler de devoirs et de sa quête, et elle partage mon point de vue. Un clan doit l'accompagner. Elle m'a demandé de quel candidat nous disposions, et je lui ai donné les noms de Lourd et d'Horty. Elle souhaite que leur formation débute sur le champ. »
Je croisai les bras et me tue. Mon abasourdissement ne provenait pas seulement de l'intégration autoritaire d'Horty dans le clan d'art. Je savais que dans le royaume des montagnes, un enfant comme Lourd aurait été abandonné, dans la nature, dès sa naissance. Et j'avais supposé que Ketriken verrait d'un œil atterré un tel homme au service de son fils. De fait, j'avais compté qu'elle rejetterait sa candidature. Mais, une fois de plus, ma reine m'avait surpris. Quand je m'estimais capable de m'exprimer d'une voix qui ne tremblait pas, je questionnais. A-t-elle déjà envoyé chercher Horty ?
Pas encore. La reine veut se charger personnellement de cette affaire, avec la plus grande diplomatie. Si elle expose sa demande de but en blanc, Burik refusera, nous le savons, et si elle lui ordonne d'obéir, ma foi, nous ignorons quelle peut être sa réaction. Elle souhaite que père et fille acceptent tous deux à sa requête de plein gré. Aussi, la forme sous laquelle il faut présenter les choses exige-t-elle une profonde réflexion. Mais pour le moment, les délégués de Terrilleville accaparent tout son temps. Quand ils seront partis, elle invitera Burik et Horty au château, afin de leur expliquer notre besoin, et peut-être Molly aussi.
D'un ton circonspect, il ajouta « À moins naturellement que tu ne préfères te faire le porte-parole de la reine et leur soumettre toi-même notre demande. Ainsi, les leçons d'Horty pourraient débuter plus vite. » Je relâchai mon souffle. Non, je ne préfère pas. Et la reine ferait bien aussi de ne pas perdre son temps à songer à la meilleure façon d'aborder le sujet avec eux, parce que je n'enseignerai pas l'art à Horty.
Je me doutais que tu réagirais ainsi. Mais les sentiments n'ont plus leur place dans cette affaire, Fitz. La reine commande, et nous ne pouvons qu'obéir. »
Je m'avachis dans mon fauteuil, l'âcre bile de la défaite au fond de la gorge. C'était arrivé. Ma reine ordonnait qu'on sacrifiât ma fille pour l'héritier des loin-voyants. La vie paisible d'Horty, la sécurité de son foyer s'envolait comme des fétus au vent des impératifs du trône loin-voyant. J'avais déjà vécu cette situation, et autrefois, j'aurais cru n'avoir d'autre solution que d'obéir. Mais c'était un Fitz plus jeune qui pensait ainsi. Je réfléchis. Ketriken, mon amie, l'épouse de mon oncle Vérité,
était une loin-voyant par la vertu de son mariage. Les vœux que j'avais prononcés enfant, puis adolescent, puis jeune homme, me liaient aux loin-voyants et m'obligeaient à les servir selon leurs ordres, même si je devais y laisser la vie. Envers Imbre, mon devoir me paraissait clair. Mais qu'est-ce qu'un serment ? Des mots dits tout haut avec la ferme intention de s'y tenir. Pour certains, ce ne sont que des paroles qu'on peut oublier quand les circonstances ou le cœur changent. Des hommes et des femmes qui se sont jurés fidélité finissent par s'ébattre avec d'autres ou abandonner leur conjoint. Des soldats assermentés à un seigneur désertent dans le froid et la disette de l'hiver. Des nobles, qui avaient promis de servir une cause, jettent leurs obligations par-dessus les moulins quand un troisième larron leur propose de plus grands avantages. Dans ces conditions, ma parole me contraignait-elle vraiment à obéir à Quatrikaine ? Je m'aperçus que ma main s'était portée vers la petite épingle à l'effigie du renard piquée dans ma chemise. Il existait 100 raisons pour lesquelles je ne voulais pas exécuter ses ordres, 100 raisons qui n'avaient rien à voir avec Orti. Comme je l'avais déjà dit à Imbre, l'art était une magie qu'il valait mieux laisser s'éteindre. J'avais accepté de l'enseigner à devoir, mais les parchemins qui traitaient du sujet ne me confortaient nullement dans cette décision. La puissance que ces manuscrits oubliés prêtaient à l'art dépassait de loin tout ce que Vérité avait pu imaginer. Puis, plus j'avançais dans ma lecture, plus je prenais conscience que nous disposions, non d'une bibliothèque complète sur cette magie, mais seulement de quelques rares vestiges. Nos textes parlaient des devoirs des enseignants et exposaient les usages les plus complexes et raffinés de l'art. D'autres expliquaient certainement les points fondamentaux de la magie, la façon dont un artiseur pouvait accroître ses capacités et sa maîtrise pour atteindre le niveau nécessaire à l'exécution des opérations les plus savantes. Mais nous ne les possédions pas, et elles seules savaient ce qu'ils étaient devenus. Les bribes de savoir que j'avais rassemblées m'avaient convaincu que l'art permettait d'atteindre à des pouvoirs quasiment égaux à ceux des dieux. On pouvait blesser ou guérir, aveugler ou éclairer, encourager ou écraser. Je ne me jugeais pas assez sage pour disposer de telles facultés, et pas davantage pour décider qui devait en hériter. En revanche, plus Imbre avançait dans ses lectures, plus son empressement et son avidité grandissaient à faire sienne cette magie dont sa naissance illégitime lui avait barré l'accès. Je m'effrayais souvent de son enthousiasme devant toutes les promesses de l'art, et j'éprouvais une autre sorte d'inquiétude du fait qu'il persistait à s'y risquer seul. Il n'avait pas évoqué le sujet depuis quelque temps, et j'en tirais l'espoir que ses efforts n'étaient pas couronnés de succès. Malheureusement, cela ne me donnait toujours aucune prise sur la situation. Je pouvais refuser de le former à l'art, je pouvais m'enfuir. Imbre n'en poursuivrait pas moins son objectif, même sans moi. Sa volonté était arrêtée autant que son désir de posséder l'art. Il s'efforcerait non seulement d'apprendre par lui-même, mais aussi de former Devoir et Lourd et Orti. J'y songeais tout d'un coup. Il voyait l'art non comme un danger, mais comme un but auquel il voulait parvenir. De son point de vue, il y avait droit. Enfant naturel ou non, il restait un loin-voyant et la magie de sa famille lui revenait légitimement. On lui avait refusé le privilège que lui conférait sa naissance parce qu'il était un loin-voyant bâtard, tout comme ma fille. Je mis soudain le doigt sur une plaie qui suppurait en moi depuis des années, la magie des loin-voyants. Voilà ce qu'était l'art. La famille régnante des six duchés y avait soi-disant droit, et ce présupposé s'accompagnait de l'idée que ses membres jouissaient de la sagesse nécessaire pour en faire usage dans le monde entier. Imbre, né du mauvais côté des draps, avait été jugé indigne et sans considération pour ses sentiments. On lui avait interdit toute formation. Peut-être n'y présentait-il aucune prédisposition, ou bien son talent s'était-il étiolé par manque d'entretien, mais il n'en restait pas moins que l'injustice de son sort continuait à le ronger malgré les années, et cette ambition contrariée sous-tendait certainement le désir qui le consumait de rétablir l'usage de l'art. Considérait-il que je privais Orti de son privilège comme lui-même en avait été dépouillé? Je le regardais. Si Vérité, Imbre et Patience n'était pas intervenu en ma faveur. Peut-être
partagerai-je aujourd'hui son impression.
« Tu es bien silencieux, »
fit-il à mi-voix. « Je réfléchis, » répondis-je. Il fronça les sourcils.
« Fitz, il s'agit d'un ordre de la reine, pas d'une supplique soumise à ton bon vouloir. Nous devons obéir. »
« Pas d'une supplique soumise à ton bon vouloir. » Dans ma jeunesse, j'avais commis bien des actes sans y songer. J'accomplissais simplement mon devoir. Mais j'étais un enfant alors. Désormais adulte, je n'oscillais plus entre ce qui relevait de mes obligations et ce qui n'en faisait pas partie, mais entre ce qui était bien et ce qui était mal. J'étudiais la question sous un angle plus large. Était-il bon d'enseigner l'art à une nouvelle génération et de préserver cette magie dans notre monde? À l'opposé, était-il bon de laisser ce savoir s'éteindre et se dérober à l'humanité? S'il devait toujours échapper à certains, serait-ce justice de l'interdire à tous? La jouissance de la magie s'apparentait-elle à la garde d'un trésor, ou bien ne fallait-il y voir qu'un talent qu'on possède ou non, comme celui de tirer à l'arc ou de chanter juste? Je me sentais assiégé par les questions qui tournoyaient sous mon crâne. Dans mon cœur, une autre menait grand tapage. Existait-il un moyen de protéger Horty du sort qui l'attendait? Car la perspective m'était insupportable, de voir tous mes sacrifices réduits à néant lorsqu'on révélerait le secret de ma naissance et de ma survie à ceux qui en souffriraient le plus. Je pouvais refuser d'enseigner l'art, mais cela ne préserverait pas ma fille. Je pouvais l'enlever et m'enfuir avec elle, mais cette solution aurait des conséquences aussi désastreuses que celles que je redoutais déjà. Quand Caudron m'avait appris le jeu des cailloux, j'avais éprouvé un jour une curieuse modification de mes perceptions. Le loup se trouvait à mes côtés. J'avais vu la disposition des petites pierres posées à l'intersection des lignes non comme une situation figée, mais comme un point particulier d'un éventail de plus en plus large de possibilités en perpétuel changement. Je ne remporterais pas la partie contre Imbre en répondant non, mais si je disais oui,
tu as toujours choisi de te laisser enfermer par ce que tu es. À présent, choisis de te libérer par ce que tu es.
Je retins mon souffle en sentant cette pensée naître dans mon esprit.
Œil de nuit.
Je cherchais à la retenir, mais son origine était aussi insaisissable que celle du vent. J'ignorais si c'était l'art qui me l'avait transmise d'une autre personne ou si elle était remontée des profondeurs de mon être. Cependant, d'où qu'elle vint, elle avait l'accent de la vérité. Je manipulais cette conviction avec délicatesse, craignant de m'y couper. Je me laissais donc enfermer par ce que j'étais. J'étais un loin-voyant, mais d'une façon étrange détaché, qui me libérait.
« Je veux une promesse, » dis-je d'une voix lente.
Imbre perçut le changement d'orientation qui s'était opéré en moi. Il posa soigneusement son verre de vin.
« Tu veux une promesse ?»
Il y avait toujours réciprocité entre le roi subtil et moi. Je lui appartenais, et en échange, il subvenait à mes besoins et me fournissait une éducation. Il s'est très bien occupé de moi, ce dont je n'ai pris pleinement conscience qu'à l'âge adulte. Je désire un engagement similaire aujourd'hui. Le front d'Imbre se plissa.
« Il te manque quelque chose ?» C'est vrai, je reconnais que ton logement laisse à désirer, mais je te l'ai dit, on peut modifier ta chambre à ton gré, selon tes besoins. Ta monture me paraît bonne, mais si tu en préfères une meilleure, je puis m'arranger pour Horty,
murmurai-je.
Tu désires qu'on assure l'avenir d'Horty? Cela ne présenterait nulle difficulté si nous l'amenions ici, où son instruction serait garantie, où elle bénéficierait de l'occasion de faire la connaissance de jeunes gens de la noblesse et...
Non, je ne veux pas qu'on m'assure son avenir, je veux qu'on la laisse tranquille.
Il secoua la tête avec lassitude.
Fitz, Fitz, ce n'est pas en mon pouvoir, tu le sais. La reine a ordonné qu'on la conduise ici et qu'elle entame sa formation d'artiseuse.
Ce n'est pas à vous que je le demande, mais à la reine. Si j'accepte de devenir son maître d'art, elle doit accepter de me laisser enseigner à qui je le désire, en secret et à ma façon. Et elle doit promettre de ne pas y mêler ma fille. » Une expression effrayante passa sur les traits du vieillard. Dans son regard brillait l'espoir fou que je prendrais la fonction de maître d'art, mais son courage défaillait devant la contrepartie que j'exigeais.
« Tu serais prêt à tenter d'obtenir une promesse de ta reine ? Ne crois-tu pas que tu présumes trop de toi-même ?»
Je carrai la mâchoire. « C'est possible, mais peut-être les loin-voyants présument-ils trop de moi depuis bien longtemps ?» Il prit une longue inspiration. Cédant de la perspective que j'avais fait miroiter pour contenir sa colère, et déclara d'un ton glacial et guindé
« Je soumettrai ta proposition à sa majesté et je te rapporterai sa réponse. »«
S'il vous plaît, » répondis-je avec courtoisie, à mi-voix. Il se leva d'un mouvement plein de raideur et se dirigea vers la sortie sans un mot de plus. À ce mutisme, je sentis que sa réaction avait des racines plus profondes que je ne le croyais. Et il me fallut un petit moment pour comprendre. Je ne lui ressemblais pas, ni comme loin-voyant, ni comme assassin. J'ignore si je valais mieux que lui pour autant. Malgré mon désir de le voir s'en aller, il me restait à discuter avec lui d'autres sujets. Imbre, avant que vous ne partiez, je dois vous avertir. Je pense qu'un espion rôdait dans nos couloirs secrets. J'eus presque l'impression de le voir écarter sa colère par un effort de volonté. Il se retourna, et je soulevai le saladier pour lui montrer le rat. C'est le furet qui l'a tué la nuit dernière. J'ai capté le cri de douleur de quelqu'un à l'instant de sa mort. Pour moi, c'était la bête de vif d'une personne qui se trouve dans le château. Peut-être la même que j'ai rencontrée sur la route la veille des fiançailles du prince. Avec une grimace de dégoût, Imbre se pencha sur le cadavre et le repoussa du doigt.
« Existe-t-il un moyen d'apprendre à qui il appartenait ?»
Je secouai la tête. Pas de façon certaine, non. Mais la mort de cet animal a dû plonger son compagnon humain dans la plus grande affliction, et il lui faudra au moins une journée pour se remettre, à mon avis. Par conséquent, si quelqu'un s'éclipse de la cour pendant ce laps de temps, il serait peut-être intéressant de lui rendre visite pour voir de quoi il souffre.
« Je vais me renseigner. » « Tu penses donc que notre espion serait un noble ?»
C'est l'aspect le plus épineux du problème. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, d'un seigneur, d'un serviteur ou d'un barde. Nous avons peut-être affaire à une personne qui vit depuis toujours au château, ou à quelqu'un dont l'arrivée remonte seulement au début des festivités des fiançailles.
« As-tu des soupçons particuliers ?»
Je fronçai un moment les sourcils. Il peut valoir la peine de se pencher sur les Brisinga et leur entourage, mais cela tient uniquement à ce que certains d'entre eux ont le vif, nous le savons, et manifestent de la sympathie pour d'autres qui possèdent leur magie.
Leur groupe est réduit. Civil Brisinga se trouve à Castelserre, accompagné d'un valet, d'un page et d'un palefrenier, je crois, pour son cheval. Je vais diligenter une enquête sur eux.
Ce qui m'intrigue, c'est qu'ils restent ici, alors que tant d'autres nobles ont déjà regagné leur fief. Peut-on essayer, avec discrétion, de découvrir pourquoi ?
Il s'est lié d'une étroite amitié avec le prince, et l'intérêt de sa famille veut qu'il exploite cette relation. Mais je me renseignerai sur la situation à Castelmyrth. J'y dispose d'un agent. Une femme, tu sais.
Je hochai gravement la tête.
Elle m'a rapporté que la qualité du service de maison paraît décliner depuis un mois environ. De vieux domestiques sont partis, et les nouveaux manquent de manières et de discipline. Un incident s'est produit à cause de certains marmitons qui se sont servis dans la cave à vin. La cuisinière s'est mise dans tous ses états en les découvrant ivres, et encore plus quand elle s'est rendue compte que ce n'était pas la première fois qu'ils puisaient dans les tonneaux. Quand elle a constaté que Dame Brisinga ne renvoyait pas les coupables, c'est elle qui a plié bagage alors qu'elle occupait sa place depuis plusieurs années. Il semble aussi qu'on n'ouvre plus les portes aux mêmes invités qu'auparavant. Au lieu de l'aristocratie terrienne et de la petite noblesse qu'elle accueillait jusque-là, Dame Brisinga a reçu plusieurs groupes de chasseurs dont la description m'a donné une impression de rudesse, voire de grossièreté.
À quoi cela rime-t-il, à votre avis ?
Dame Brisinga forme peut-être de nouvelles alliances. Je soupçonne ses récentes amitiés d'avoir le vif, dans le meilleur des cas, et d'appartenir au pis, dans le pire. Toutefois, ses relations ne s'établissent peut-être pas avec son approbation sans réserve. Mon agent signale que Dame Brezinga passe de plus en plus de temps seule dans ses appartements, même lors des repas de ses invités.
A-t-on intercepté des courriers entre Civil et elle ? Imbre secoua la tête.
Pas au cours des deux derniers mois. Apparemment, ils ne correspondent pas du tout.
Je levai les sourcils. Je trouve ça extrêmement curieux. Il y a anguille sous roche. Il faut surveiller Civil plus étroitement que jamais. Je soupirai. Ce rat représente le premier indice de l'activité des pies depuis la découverte de la brindille de laurier. J'espérais qu'il s'était calmé. Imbre prit une profonde inspiration et la relâcha lentement. Puis il revint s'asseoir à la table.
« Il y en a eu d'autres, » fit-il à mi-voix. « Mais comme celui-ci, il n'avait rien de probant. »
Voilà qui était nouveau pour moi. « Vraiment ?» Il toussota.
« La reine est parvenue à mettre un terme aux exécutions de vifiers en serre, du moins aux exécutions publiques, car à mon avis, dans les villages et hameaux, elle pourrait parfaitement se poursuivre sans que nous en sachions rien, ou bien être présentée comme des sanctions pour d'autres crimes. Mais les meurtres ont remplacé les mises à mort légales. S'agit-il de citoyens ordinaires qui tuent des vifiers? De pies qui s'en prennent aux leurs pour les obliger à obéir? Nous n'en savons rien, mais les assassinats continuent.
Nous en avons déjà débattu. Comme vous l'avez dit vous-même, la reine Kétriken n'y peut pas grand-chose, déclarai-je d'un ton neutre.
Imbre se racla la gorge.
Si tu réussissais à en convaincre Sa Majesté, tu me rendrais un fier service. Cette question la ronge, Fitz, et pas seulement parce que son fils a le vif.
Je compris et j'inclinai la tête. Elle s'inquiétait aussi pour moi. « Et en dehors de serre ?» demandai-je.
« C'est plus compliqué. Les duchés ont toujours vu d'un mauvais œil l'ingérence de la couronne dans ce qu'ils considèrent comme des affaires de pouvoir et de justice internes. Obliger Bauge ou Labour à cesser complètement d'exécuter les gens pour crimes de vif reviendrait à exiger de Orfond qu'il mette fin à ses attaques de harcèlement sur sa frontière commune avec Calcède.
Orfond se bagarre depuis toujours avec Calcède à propos de cette frontière.
Oui. De même que Bauge et Labour condamnent depuis toujours à mort les vifiers.
Ce n'est pas tout à fait exact. Je me radossai dans mon fauteuil. Je n'avais pas perdu mon temps depuis que j'avais accès à la collection de manuscrits d'Imbre et à la bibliothèque de Castelserre. Avant l'époque du prince Pi, le vif n'était pas considéré différemment des magies des haies. Ce n'était pas un pouvoir très considérable, mais quand quelqu'un le possédait, eh bien c'était comme ça, et on ne le regardait pas comme un individu ignoble, ni porté au mal.
« C'est vrai, en effet, » reconnut Imbre. Mais la mentalité actuelle est si bien ancrée qu'il est pratiquement impossible de la modifier. Dame Patience fait de son mieux en Bauge. Quand elle ne peut pas empêcher une exécution, elle s'applique à punir tous ceux qui y ont participé. Nul ne peut l'accuser de rester les bras croisés.
Il se mordilla la lèvre.
La semaine dernière, la reine a reçu un message anonyme.
Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu ? Demandai-je aussitôt.
« Pourquoi aurait-il fallu te prévenir ? »
répliqua-t-il d'un ton sec. Devant ma mine renfrognée, il se radoucit.
« Il n'y avait guère à en dire. On n'y faisait état d'aucune exigence ni menace. La lettre recensait simplement tous ceux qui avaient été mis à mort pour crime de vif dans les six duchés au cours des six derniers mois. »
Il poussa un soupir.
« Cela donnait une liste considérable. 47 noms. »
Il pencha la tête.
Elle n'était pas frappée du signe du cheval pie. Nous supposons qu'elle émane d'une autre faction des vifiés.
Je restai un moment plongé dans mes réflexions. Les vifiés savent qu'ils ont l'attention de la reine, je pense. À mon avis, ils l'informent de ce qui se passe afin de voir comment elle réagira. Ne rien faire serait une erreur, Imbre. Il hocha la tête, satisfait malgré lui.
C'est ainsi que j'ai interprété ce message moi aussi. Au dire de la reine, il démontre que nous sommes en train de gagner la confiance des vifiés, car il ne lui enverrait pas une telle liste s'il la jugeait incapable d'y mettre bon ordre. Nous cherchons actuellement des parents de chacune des victimes. Après quoi, la reine informera à chaque duché qu'il leur doit une certaine somme en dédommagement de la dette de sang.
Ça m'étonnerait que vous en trouviez beaucoup. Les gens hésitent à se reconnaître un parent vifié. Il acquiesça de la tête.
Nous avons réussi à en découvrir quelques-uns, néanmoins, et l'argent du sang pour les autres restera ici, à Castelserre, sous la garde du teneur de livres de Ketriken. Quand elle ne trouvera personne, elle ordonnera qu'on placarde des avis pour annoncer aux parents des suppliciés qu'ils peuvent se rendre en serre demander compensation.
Je réfléchis. La plupart auront peur de se montrer. En outre, proposer de l'or peut leur paraître bien froid. Certains nobles risquent même de considérer ce prix comme une incitation à débarrasser leur fief des vifiés. Ils y verront une récompense à qui élimine les rats d'une maison.
Humbre courba la tête et se massa les tempes. Quand il me regarda de nouveau, ses traits étaient tirés.
« Nous faisons notre possible, Fitz. As-tu une autre suggestion ?»
Je restai un moment songeur.
« Non, pas vraiment.
Mais j'aimerais étudier les manuscrits qu'on vous a envoyés, la liste de noms et les précédents, surtout celui qui est arrivé juste avant l'enlèvement du prince.
Si tel est ton désir, il sera exaucé. »
Je perçus dans sa voix un je ne sais quoi qui me donna la chair de poule, et c'est d'un ton circonspect que je dis « Je vous ai déjà demandé à les voir à plusieurs reprises. Je tiens à les examiner, Humbre. Quand aurai-je l'occasion ?» Il me lança un regard noir sous ses sourcils froncés. Puis, il se leva et se dirigea lentement à pas lourds vers son étagère à parchemin.
« De toute façon, il faudra bien que je te transmette un jour tous mes secrets, j'imagine, »
fit-il à contre-cœur. Puis, sans que je visse comment il s'y prenait, il déclencha un loquet. Le chapiteau du meuble s'abaissa. Humbre glissa la main par l'ouverture et en retira trois manuscrits, petits et roulés serrés. Les cylindres ainsi obtenus pouvaient se dissimuler dans un point fermé. Je me levai, mais il referma le parement avant que je puisse distinguer ce qui s'y trouvait d'autre.
« Comment avez-vous ouvert cette cachette ? » demandai-je.
Il eut un mince sourire.
« J'ai dit « un jour, Fitz, pas aujourd'hui. »
Je reconnus le ton de mon mentor d'autrefois. Il paraissait avoir remisé son ressentiment contre moi. Il revint près de moi et me tendit les trois petits rouleaux posés dans sa main.
« Ketriken et moi avions nos raisons. J'espère que tu les trouveras justifiées. »
Je pris les parchemins, mais avant même que j'eusse le temps d'en ouvrir un, la bibliothèque pivota et Lou rentra dans la pièce. Je glissai les manuscrits dans ma manche d'un mouvement si souvent répété qu'il en était quasiment instinctif.
« Je dois te laisser, Fitz-Chevalerie. »
Humbre se tourna vers son serviteur.
« Lourd, tu avais rendez-vous avec Tom plus tôt dans la journée. Maintenant que vous voici réunis, je veux que vous appreniez à vous connaître. Je veux que vous deveniez amis. »
Le vieil assassin me jeta un dernier regard d'avertissement.
« Je suis sûr que vous allez passer un agréable moment à bavarder. Allons, bonne soirée à tous les deux. »
Et là-dessus, il nous laissa. Était-ce du soulagement que j'avais perçu dans sa voix? Toujours est-il qu'il se hâta de sortir avant que l'étagère eût repris sa place. Le simple d'esprit portait une double charge de bois dans une bandoulière en tissu jetée sur son épaule. Il parcourut la salle du regard, surpris peut-être par le prompt départ d'Humbre.
« Le bois !»
me dit-il. Et il lâcha son fardeau. Il se redressa et s'apprêta à rebrousser chemin. « Lourd !» Il s'arrêta au son de ma voix. Humbre avait raison. Je devais au moins lui apprendre à m'obéir. « Tu sais que tu n'as pas fini ton travail. Range le bois dans la huche. » Il me foudroya des yeux en roulant des épaules et en frottant ses mains aux doigts courts l'une contre l'autre. Enfin, il saisit une extrémité de la bandoulière et l'attira vers le foyer en laissant derrière lui des bûchettes, des bouts d'écorce et d'autres débris. Je me tus. Il s'accroupit près de la cheminée, puis, avec une énergie et un bruit hors de proportion, il entreprit d'empiler le bois. Tout en travaillant, il me jeta de fréquents coups d'œil par-dessus son épaule, mais je ne parvins pas à déterminer si ses traits froncés exprimaient l'antagonisme ou la peur. Je me servis un verre de vin en m'efforçant de ne pas lui prêter attention. Il devait exister un moyen d'éviter d'avoir affaire à lui tous les jours. Je ne tenais pas à l'avoir constamment dans les jambes, et encore moins à lui enseigner l'art. En toute franchise, j'éprouvais une certaine aversion devant son corps difforme et son intellect limité. Comme Galen devant moi. Comme Galen qui ne voulait pas de moi comme élève. Cette idée me fit trébucher sur une partie meurtrie de moi-même qui n'avait jamais complètement guéri, et je ressentis de la honte en regardant Lourd exécuter sa tâche d'un air maussade. Pas plus que moi, il n'avait demandé à devenir l'instrument de la couronne des loin-voyants. Comme dans mon cas, ce devoir lui avait été imposé. Il n'avait pas non plus choisi de n'être contrefait et idiot. L'idée grandit en moi qu'il y avait une question que nul n'avait posée jusque-là. Une question qui me paraissait soudain très importante et qui risquait de jeter un éclairage nouveau sur la création du clan d'art du prince. « Lourd ?» fis-je. Il grogna. Je me tus en attendant qu'il cessât son travail et tourna vers moi un regard furieux. Le moment n'était peut-être pas idéal pour s'enquérir de ses sentiments, mais nous n'aurions sans doute pas d'occasion plus favorable pour tenir la conversation que je souhaitais. Une fois assuré, au vu de ses petits yeux qui me poignardaient, qu'il me prêtait attention, je repris. « Lourd, aimerais-tu que je t'apprenne l'art ?»«
Quoi ?»
Il prit un air soupçonneux, comme s'il pensait que je cherchais à me moquer de lui. Je franchis le pas. « Tu as un talent. » Il fronça davantage les sourcils et je m'expliquai. « Il y a quelque chose que tu sais faire, d'autres en sont incapables. Parfois tu t'en sers pour obliger les gens à ne pas te voir. Parfois tu t'en sers pour me lancer des insultes qu'Imbre n'entend pas, des insultes comme « pue le chien ». Il eut un sourire railleur dont je ne tins pas compte. Aimerais-tu que je t'apprenne d'autres moyens de t'en servir? De bons moyens qui te permettraient d'aider ton prince? Il ne prit même pas le temps de réfléchir.
Non.
Et il se remit à entasser bruyamment les bûches. La promptitude de sa réponse me laissa légèrement désarçonné. Pourquoi? Toujours accroupi, il me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule.
J'ai assez de travail.
Et son regard entendu passa tour à tour de la réserve de bois à moi.
« Pue le chien.
Ne fais pas ça. »« Bah, nous avons tous des tâches à accomplir, c'est la vie. » Sans répondre, il continua d'empiler brutalement les morceaux de bois. J'inspirai profondément en prenant la ferme résolution de ne pas réagir à ses insolences, et je me demandais comment obtenir de lui un peu plus de coopération. Car je me découvrais soudain l'envie de le former, de lui donner un début d'enseignement en guise de signe de bonne volonté à l'intention de la reine. Pouvais-je l'amener à essayer d'apprendre l'art à l'aide des récompenses, comme l'avait suggéré Imbre? Pouvais-je acheter la sécurité de ma fille en agitant une carotte sous son nez? « Lourd ? » fis-je. « Que désires-tu ? » Il interrompit son travail, se retourna vers moi et plissa le front.
« Quoi ? »
Que désires-tu? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'attends-tu de la vie?
Ce que je veux?
Il me regarda en plissant les yeux, comme si, en me voyant plus nettement, il pouvait mieux comprendre mes paroles.
Ce que je veux avoir? À moi?
J'acquiesçais à chaque question. Il se redressa lentement, puis se gratta la nuque. Pendant qu'il réfléchissait, une moue épaissit ses lèvres et sa langue pointa entre elles.
« Je veux l'écharpe rouge de Chahut. »
Il se tut et me considéra d'un air revêche. Il devait croire que j'allais refuser. Je ne savais même pas qui était Chahut. « Une écharpe rouge? Je dois pouvoir te trouver ça. Quoi d'autre ?» Il me regarda pendant plusieurs minutes avant de répondre.
« Un gâteau rose pour le manger tout entier, pas brûlé, et un gros tas de raisins secs. »
Il s'interrompit à nouveau et me dévisagea d'un air de défi. « Et quoi encore ? » demandai-je. Jusque-là, rien ne me paraissait difficile à lui procurer. Il s'approcha de moi, l'œil scrutateur. Il pensait que je me moquais de lui. Je pris une voix douce pour m'enquérir. « Si tu avais tout cela maintenant, que désirerais-tu d'autre ?»«
Si je... les raisins secs et le gâteau à la fois ?»«
Les raisins secs, le gâteau et l'écharpe en même temps. Que voudrais-tu de plus ?» Il plissa les yeux et ses lèvres remuèrent sans qu'aucun son s'en échappe. Il n'avait sans doute jamais envisagé la possibilité d'avoir envie de davantage. Je songeais que j'allais devoir lui apprendre la convoitise pour pouvoir le manipuler, et simultanément, la simplicité même de ses désirs me fendit le cœur. Il ne demandait pas de meilleurs gages, ni de loisirs supplémentaires, il aspirait seulement aux petites choses, aux petits plaisirs qui rendent supportable une existence pénible.
« Je veux un couteau, comme toi, et une grande plume, une de celles qui ont des yeux dessus, et puis un flutio, un rouge, j'en avais un avant, ma maman m'avait donné un flutio rouge avec une ficelle verte. »
Il fronça davantage les sourcils, tâchant de réfléchir.
« Mais on me l'a pris et on l'a cassé. »
Il se tut un instant, perdu dans ses souvenirs, le souffle rauque. À quand remonta cet épisode? Les yeux plissés, presque clos sous l'effort, il fouillait sa mémoire. Je l'avais cru trop stupide pour se rappeler son enfance, mais je m'employais désormais à réviser rapidement mon jugement. Certes, son esprit ne fonctionnait pas comme le mien, ni celui d'Imbre, mais il fonctionnait tout de même. L'ours cligna soudain plusieurs fois les paupières et prit une longue inspiration hachée. Les mots qu'il prononça ensuite s'accompagnaient d'un sanglot. Sa diction, naturellement malaisée, s'en trouvait presque inintelligible.
« Il ne voulait même pas souffler dedans. J'ai dit... « Vous pouvez souffler dedans, mais ensuite rendez-le-moi. Ils n'ont même pas soufflé dedans, ils l'ont cassé, c'est tout. Et puis ils se sont moqués de moi, mon flutio rouge que ma maman m'avait donné. »
Peut-être le spectacle de ce petit homme courtois, avec sa langue qui pointait entre ses lèvres, en train de pleurer sur la perte de son mirliton, présentait-il un élément comique? J'ai connu beaucoup de gens qui se seraient esclaffés. Pour ma part, je retins ma respiration. Le chagrin irradiait de lui comme la chaleur d'un feu et ravivait chez moi des souvenirs d'enfance longtemps demeurés enfouis. Royal me bousculant, l'air de rien, en me croisant dans le couloir ou passant exprès dans mes jouets pour les éparpiller alors que je m'amusais tranquillement, assis par terre dans un coin de la salle commune. Je sentis une rupture se produire en moi, un mur se briser que j'avais dressé entre l'ours et moi à cause des différences que je percevais entre nous. Il était simple d'esprit, gros, maladroit, contrefait, sans raffinement, mal fini, malodorant et grossier, et aussi peu à sa place dans ce château où régnaient luxe et plaisir que moi, quand j'étais le gamin sans nom qui vivait avec les chiens. Son âge n'avait plus d'importance. Je ne voyais plus que l'enfant. L'enfant qui ne pourrait jamais devenir adulte, qui ne pourrait jamais dire que ses blessures avaient fait partie de son passé alors qu'il était vulnérable. L'ours resterait toujours vulnérable. J'avais voulu l'acheter. J'avais cherché à savoir ce qui lui faisait envie afin de l'obliger à m'obéir en agitant une récompense sous son nez, non par cruauté, mais pour obtenir, grâce à un marchandage, qu'il se plie à ma volonté. En cela, je n'aurais guère agi différemment de mon grand-père quand il avait négocié mon allégeance. Subtil m'avait remis une épingle et promis de me fournir une éducation. Jamais il ne m'avait donné son amour, même s'il avait fini, je crois, par me porter autant d'affection que j'en éprouvais pour lui. Pourtant, j'avais toujours regretté que ce fût son dernier cadeau, et non le premier. Vers la fin de sa vie, je l'avais d'ailleurs soupçonné de partager ce vain remords. Et je me surpris alors à prononcer des paroles avant même de les savoir présentes à mon esprit. Oh, l'ours, que nous t'avons donc maltraité. Mais nous allons réparer, je te le promets. Nous allons améliorer ton sort avant que je te prie encore une fois d'apprendre ce que je te demande.